Alors, je vais appeler à présent un beau duo avec Nathalie. Hein, c'est un beau duo. Avec Nathalie Fernandez, vous venez en même temps, je crois, sur scène, qui est directrice adjointe de la Fondation GSF Jean-Louis Nozier, qui est une structure qui est dédiée à l'accueil de jour thérapeutique, qui fait des choses passionnantes. Et celui qu'on ne présente plus, mais que je vais présenter, le professeur Philippe Robert, professeur de psychiatrie à l'UQA, à l'Université Côte d'Azur, et qui est surtout le directeur du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche du CHU de Nice, et un des meilleurs spécialistes de la maladie d'Alzheimer, que l'on convoque un peu partout pour tout ce qu'il sait, encore.
Bonjour, merci. Bonjour.
Bonjour, merci de nous accueillir. Oui.
Alors, juste si vous voulez, les micros à chef.
Oui, juste d'abord une petite correction. Hein, je suis à la retraite depuis l'année dernière.
Ah, pardon.
Donc, je ne suis plus directeur du Centre Mémoire.
Alors,
Le Centre Mémoire est dirigé par le docteur Guillaume Sacco et avec, bien sûr, comme neurologue en chef, Aurélie Mouton. Et c'est à l'Institut Claude Pompidou. Voilà.
Oh, ben, je suis désolée.
C'est pas grave.
Je vais vous appeler mon ex.
Voilà, ouais. C'est ça. Mais c'est bien d'être à la retraite, moi, je vous le dis. Hein. Alors, je vais commencer un petit peu. Alors, la thématique dont on voudrait parler aujourd'hui, mais là, je ne suis pas... Ah oui, je vais dans l'autre sens. C'est sur la place des aidants. Alors, les aidants, quelques chiffres. Eh bien, 9 millions d'aidants. Hein, ça, c'est un chiffre qui est français. Hein, et alors, avec une différence selon les aidants, qu'on les considère comme donnant de l'argent, hein, faisant des soins quotidiens, ou bien étant en soutien moral. Mais c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et alors là, c'est toujours cette même enquête française. Hein, c'est un graphique qui montre que... vous voyez le haut de la courbe, c'est que le plus grand nombre d'aidants, il se situe dans cette tranche d'âge qui est entre 55 et 65, 70 ans, l'âge d'être à la retraite. Et donc, c'est aussi des gens qui peuvent avoir des difficultés. Et dernier chiffre important, c'est qu'une majorité, même si c'est pas tout à fait une majorité écrasante, mais une majorité de ces aidants sont des femmes. Tous ces chiffres sont importants et sont importants dans la maladie d'Alzheimer. Donc on s'est questionné avec Nathalie sur l'intérêt de comment structurer ou amener encore des éléments concernant l'aide, la place qu'on peut donner aux aidants. Il existe déjà beaucoup de structures, en particulier à Nice, on a la chance d'avoir l'association France Alzheimer 06, mais il y a peut-être d'autres choses à ajouter. Et là, c'est Nathalie qui peut donner bien l'exemple par rapport à l'accueil du jour.
Faut appuyer sur ça,
sur celui-ci.
Sur celui-là, d'accord. Alors, moi, dans un premier temps, je voudrais commencer par vous exposer les objectifs principaux de l'accueil de jour. Et ensuite, je vous ferai part de l'évolution de notre réflexion sur la place des aidants au sein de la Fondation et les répercussions que cela a eues sur notre pratique. Donc, l'accueil de jour, c'est un dispositif qui favorise le maintien à domicile. Il est destiné à des personnes qui vivent chez elles et qui ont des troubles neurocognitifs. Donc, les objectifs de l'accueil de jour, ils sont fixés par la circulaire du 29 novembre 2011. Et donc, ils sont de préserver le lien social, proposer un accompagnement entre le chez-soi et l'établissement. Hein, ça prépare parfois une entrée en EHPAD. Donc, ça permet une première expérience en collectivité. Ensuite, c'est de maintenir et stimuler toutes les capacités qui existent encore à travers des ateliers divers et variés. Et le dernier point, évidemment, c'est d'apporter du répit aux aidants puisque les personnes sont accueillies durant la journée complète. Voilà, l'objectif vraiment essentiel, c'est de permettre un maintien à domicile de qualité. Alors, la Fondation... non, c'est pas ça... Alors, la Fondation, dans un premier temps, nous avons essayé de répondre, évidemment, à cette circulaire. Alors, on a aménagé l'espace pour que les personnes puissent se déplacer de façon autonome. On a créé des repères temporo-spatiaux. On a fait des évaluations, des projets d'accompagnement. On a formé le personnel. Par contre, les aidants, donc, ils étaient un peu là par intermittence. Hein. On les voyait au moment de l'admission. On les voyait également... alors, on les voyait... On échangeait, en tout cas, avec eux à travers un cahier de liaison, le téléphone, les mails. Il y a le conseil de vie sociale aussi qui existe, hein, comme dans d'autres établissements, mais qui fonctionne très peu, on va dire. Et puis, il y avait des occasions festives qui étaient organisées chaque année. On proposait des groupes de parole, hein, puis des échanges thématiques avec des professionnels. Ça fonctionnait plutôt bien, mais voilà, il n'y avait pas vraiment de prise en charge formalisée des aidants en accueil de jour.
Excusez-moi, juste, je fais une petite pause. On vient de me signaler que, en fait, l'alarme va se déclencher. C'est un problème technique, mais il ne se passe rien de... Tout va bien, on n'est pas obligé de vous lever et de partir. Elle va peut-être vous gêner pendant... Voilà, désolée.
Merci de nous dire.
Oui, vous ne l'aviez pas en partant.
Merci. Donc voilà, donc les aidants, en fait, leur accompagnement n'était pas du tout formalisé. C'était la même chose avec les acteurs du domicile, hein, les infirmiers, les kinés, les orthos. Les échanges, ils avaient lieu, en fait, de façon assez aléatoire. Hein, c'était au bon vouloir de chaque partie. Donc, après 10 ans de fonctionnement, on a quand même observé des décalages, hein, qui se faisaient souvent au détriment des personnes accueillies. Donc, on a observé un manque de visibilité, en fait, de visibilité sur la situation vraiment du domicile. Hein. Par exemple, on apprenait par hasard qu'on avait des ordonnances sur place, mais on apprenait que l'aidant, ben, y a certains médicaments qu'il ne voulait pas donner parce qu'il avait observé que ça endormait trop son proche. Voilà, il y a des choses comme ça dont on n'avait pas accès, auxquelles on n'avait pas accès. Il y avait parfois aussi un manque de cohérence avec l'accompagnement qu'on proposait et celui qui était fait à la maison. Ça peut être, par exemple, la texture du repas, par exemple. Nous, on observait qu'il y avait des fausses routes, donc on adaptait la texture. Et en fait, en parlant même des fois avec l'accueil, on apprenait qu'à la maison, bon, ben, pas du tout. Donc, voilà, ça perdait un peu de sens pour nous, ce qu'on faisait. Et puis aussi, une méconnaissance de la situation de l'aidant, hein, c'est-à-dire les problèmes de santé de l'aidant, on ne les connaissait pas forcément. Parfois, ils avaient des projets, le projet de déménager pour se rapprocher d'un enfant. Voilà, tout ça, c'est des choses qui nous manquaient pour vraiment avoir un accompagnement et une vision globale de la situation. Et d'un autre côté, il y avait une petite frustration, hein, quand même, de la part des équipes aussi qui se sentaient pas toujours entendues par les aidants. L'impression aussi de pas faire le maximum, en fait, de ce qu'on était capable de faire. Et une vision assez négative de la relation aidant-aidé. Moi, j'avais des personnes de l'équipe qui vraiment me disaient, mais j'avais une phrase, c'était « l'aidant s'agrippe alors que l'accueilli s'éloigne, en fait ». Il y avait cette impression-là, des phrases qui disaient aussi « il faut vraiment s'aimer énormément pour supporter tout ça ». Donc, l'équipe sentait bien que l'aidant, c'était compliqué pour lui, mais finalement, on ne savait pas vraiment ce qu'il vivait et ni comment on pouvait l'aider. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette réflexion, elle est tombée au moment où on a rédigé notre projet d'établissement, donc qui est sur 5 ans. Et donc, ça a été l'occasion d'avoir une réflexion en équipe sur la qualité de notre accompagnement. Et le résultat, ça a été que l'accompagnement des aidants est devenu une de nos priorités. Cela nous a aussi permis de redéfinir notre public, en fait. Donc, au lieu d'être centré uniquement sur la personne accueillie, en fait, il s'agissait vraiment de sortir de cette dualité personne malade et son aidant, qui limitait finalement notre intervention, et de considérer le binôme aidant-aidé comme un système, en fait, dont il faudrait conserver l'équilibre, en fait. Hein. On a commencé à avoir cette vision-là, avec des interactions aussi également avec les partenaires, hein, parce que bon, ben le maintien à domicile, il nécessite l'intervention de nombreux acteurs au fur et à mesure que la maladie évolue. Le but, c'était vraiment d'harmoniser le plus possible l'accompagnement à domicile en intégrant l'aidant sur ce qui est mis en place pour son proche et en mobilisant aussi les ressources, ses propres ressources, hein, pour qu'en fait, il puisse répartir sa charge, hein, et qu'il puisse aussi avoir un souci de lui-même. Hein. C'est quelque chose qui disparaît au fur et à mesure, c'est-à-dire que toutes les actions sont centrées sur la personne malade. Les rendez-vous médicaux, ils sont pris pour la personne. Voilà. L'aidant, enfin, moi, j'ai vu plusieurs aidants qui n'étaient pas suivis sur le plan médical, par exemple. Voilà. Donc cette réflexion en parallèle, la question, ça a été maintenant, OK, on veut les accompagner, mais en fait, qui sont-ils, en fait? Donc c'était important de les connaître. Donc on leur a fait passer un questionnaire 2018-2019 et puis un autre questionnaire en 2021. Alors sachant qu'il ne s'agissait pas des mêmes aidants, hein, puisqu'en fait la durée moyenne du séjour en accueil de jour, elle est de 2 ans. Donc c'était, il y en avait peut-être qui ont répondu aux deux, mais ce n'était pas forcément les mêmes. Et en fait, les résultats, ils ont mis en évidence une évolution au niveau de leur profil, vraiment. Alors, évidemment, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui ont ce statut d'aidant. Mais ce qui a vraiment changé, c'est... En 2018, il y avait 65% qui étaient des conjoints. En 2021, il y avait 2/3 qui étaient des enfants. Et là, en 2023, je vois arriver des petits-enfants aussi. Donc, j'ai des réunions, des visites de préadmission où il y a parfois 3 générations. Et ils sont assez efficaces, d'ailleurs, les petits-enfants, je trouve, dans leur façon de gérer la situation. Hein? Donc ça, c'est en quelques années, voilà, ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé. Et on voit aussi que ça a des répercussions sur la façon de gérer la situation. C'est-à-dire qu'en 2018, les aidants étaient beaucoup plus stressés, épuisés. En 2021, visiblement, l'équilibre est un peu plus... Il y a un certain équilibre, hein, parce qu'on se retrouve finalement avec des personnes qui sont actives, pour la plupart, alors qui doivent gérer une vie familiale, qui doivent s'occuper de leurs parents. Parfois, il y a les deux parents. Et puis, il y en a qui cumulent encore plein de difficultés. Mais en tout cas, ils ont une façon de gérer la situation qui est différente d'il y a 5-6 ans. Ce qu'on voit aussi évoluer, c'est le degré d'autonomie des personnes qu'on accompagne. Alors là, c'est vraiment lié aussi, je pense, au dépistage précoce, hein, qui vraiment, on a vu une évolution à ce niveau-là, avec des personnes qui arrivent à l'accueil de jour à dégir plutôt 3-4, donc c'est un niveau d'autonomie moyen, hein. Alors ça ne veut pas dire que l'accompagnement est plus facile, hein, bien au contraire. Voilà, en tout cas, on voit que le profil de notre... Enfin, le public évolue. Donc ça paraît évident de faire évoluer notre accompagnement pour améliorer notre efficacité. Hein. Donc c'était important quand même de matérialiser ce qu'on ressentait en fait sur le terrain. Et donc en 2022, nous avons mis en place plusieurs actions afin de répondre le mieux possible aux besoins spécifiques du binôme. Alors ça a commencé au niveau de la préadmission, on a recueilli plus d'informations sur les dents. On a récolté les coordonnées des intervenants à domicile. Dans notre logiciel de soins, on a intégré une partie vraiment de l'aidant, hein, sur lequel on retrace les échanges qu'on a. On essaye aussi de les informer, de les orienter sur toutes les solutions de répit qui existent, hein, parce qu'il faut vraiment... Nous, on n'est qu'un accueil de jour, hein, donc on se doit vraiment de travailler avec les partenaires, de les orienter. Il y en a beaucoup. De leur donner des fois un numéro de téléphone, une personne à contacter. On les accompagne aussi dans la recherche de séjours temporaires ou alors d'EHPAD aussi, hein, quand c'est le projet. On essaye de les guider dans ça. Et donc d'utiliser vraiment tous les dispositifs du territoire. Hein. Donc on travaille beaucoup avec les centres mémoire, les UCC, donc c'est les unités cognitivo-comportementales qui aident à gérer les troubles du comportement qu'on retrouve dans certaines pathologies. France Alzheimer, bien évidemment, avec qui on a de nombreux échanges. On essaye aussi de garder une continuité dans l'accompagnement quand il y a des hospitalisations. On fait des évaluations quand il y a un retour ensuite à domicile. Quand aussi on doit passer le relais à un EHPAD, par exemple, on essaye d'avoir un relais à ce niveau-là. Ça fait plus de 10 ans également qu'on travaille donc avec le laboratoire Coptech. On a testé les jeux sérieux dont parlait Valeria. Ça a permis de faciliter, de diversifier notre accompagnement et aussi d'impulser l'idée d'impulser une activité de recherche autour de la question des aidants. Voilà. Et la dernière nouveauté, on va dire, c'est la création d'une équipe mobile en fait accueil de jour. C'est quelque chose qu'on a expérimenté en 2022 avec la psychologue qui est en poste. L'objectif, c'est d'aller identifier les besoins à domicile, alors avec l'accord de l'aidant, hein, bien sûr, pour essayer en fait de voir toutes les ressources qu'on peut mobiliser pour améliorer la situation à domicile et aussi d'anticiper les situations complexes, hein, parce que l'aidant, il met énormément d'énergie dans l'accompagnement qu'il prodigue Et parfois, c'est un peu dommage quand la situation se termine par une hospitalisation, puis une entrée en EHPAD, enfin, dans une situation d'urgence, en fait, alors qu'il y a eu tellement d'années, en fait, et d'énergie qui ont été déployées pour avoir un maintien à domicile de qualité, quoi. Il y avait un peu une sensation, voilà. Le but, c'était d'éviter cette frustration-là. Donc, les objectifs, hein, voilà, c'était valoriser le rôle de l'aidant, tout en assurant le bien-être. Voilà, l'équilibre, il est là, hein, c'est-à-dire s'occuper de l'aidant, sans négliger aussi l'accompagnement qu'on propose à l'accueil de jour, et sans privilégier non plus soit l'un ou l'autre. C'est-à-dire vraiment voir le binôme dans son ensemble. Et puis essayer d'accompagner les aidants dans leur quotidien pour qu'ils puissent concilier toutes les contraintes auxquelles ils ont affaire. Donc nous, notre objectif, voilà, c'est que l'aidant il puisse décider s'il souhaite être accompagné, à quel moment, sur quelle durée, par qui. Choisir aussi la façon dont il souhaite être accompagné. Transmettre ses compétences, hein, et en acquérir de nouvelles, hein, ça on vous en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que la notion d'aidant expert, elle est importante. Et aujourd'hui, nous, en tout cas, le public d'aidants qu'on rencontre, il a vraiment ce profil-là. Il va chercher l'information, il sait ce qu'il cherche, il sait le problème qu'il doit résoudre. Et il se forme, en fait. Il devient vraiment expert. Et ensuite, il doit s'impliquer activement dans les changements qui le concernent au lieu de les subir. Voilà. Dans l'anticipation, la prévention, il y a aussi la possibilité de mieux choisir l'avenir. Donc l'accueil de jour, il doit proposer du répit à l'aidant, mais pas que. Hein. Nous devons développer de nouvelles stratégies, de nouvelles pratiques, hein, avec un ajustement et un réajustement permanent pour pouvoir essayer de proposer une réponse sur mesure et évolutive. Hein, parce qu'en fait, ça paraît impossible de proposer une intervention qui convienne à tout le monde. Hein. Donc voilà, doit émerger. C'est dans cette optique en fait que le projet de créer un lieu dédié aux aidants a émergé.
Oui, ben merci parce que vraiment, c'est plus au-delà des chiffres, hein, c'est vraiment cette expérience qui montre, hein, la place de l'aidant, hein, à partir du moment où la maladie elle a commencé, hein, où les pathologies associées ont commencé. Et où ça a des retentissements dans la vie quotidienne. Alors, une des caractéristiques qu'a pas dit Nathalie, c'est que où est-ce qu'il se situe cet accueil de jour?
Ah oui. Hein? Alors, nous, on est sur la commune de Biote, mais on est sur la technopole de Sophia Antipolis. Ah.
Hein. C'est à Sophia Antipolis, c'est au cœur de Sophia Antipolis, à côté de tous les sites de l'Université Côte d'Azur. Et, oui. Et donc, on s'est dit que c'était une opportunité, hein, de créer, parce que c'est finalement le seul lieu d'intervention, de soins, hein, qui se trouvent dans cet environnement-là, c'est de créer une structure qui soit dédiée aux aidants. Alors, on a pris l'exemple, hein, d'une université avec laquelle on collabore, et Valeria Manera en particulier, l'université de Stanford, qui ont créé depuis de nombreuses années un centre de recherche concernant spécifiquement les aidants. Hein, et on s'est dit, ben, peut-être on a l'occasion, dans le cadre du travail fait avec la Fondation Jean-Louis Noisier, de construire quelque chose de ce type. Et donc, on s'est dit, ben, alors pour les aidants de la pathologie maladie d'Alzheimer, mais pas seulement. Alors, moi je dirais pas seulement parce que dans l'équipe de recherche COPTECH, dont la directrice est le professeur Askenazi, on s'occupe aussi des états de stress post-traumatique chez l'enfant. Hein, et là aussi, eh bien, les aidants, les familles, elles ont besoin, hein, aussi parfois de conseils. L'autisme, et puis il y a peut-être d'autres.
L'autisme.
Non, mais il n'y a pas d'autres. Oui, déjà, c'est déjà pas mal.
Déjà pas mal. Hein.
Les objectifs, eh bien, c'est les trois objectifs. Alors, c'est bien parce qu'on retrouve toujours ces objectifs, hein, dans toutes les fondations ou les instituts de recherche. Hein, tout à l'heure, hein, on évoquait ça. Eh bien, c'est à peu près les mêmes. C'est-à-dire, le premier objectif, c'est de partager. Hein, et partager, ça se fait par l'intermédiaire, hein, de salles de réunion, hein, de recevoir les gens, comme on le fait ici, mais pas dans un hôtel, mais plutôt dans un centre qui leur soit dédié.
Voilà, avec un lieu, un espace vraiment ouvert où, en fait, ils puissent venir quand ils le souhaitent, comme ils le souhaitent, et sans passer par l'accueil de jour aussi.
Par l'accueil de jour. Et aussi que ça soit ouvert, eh ben, au grand public, aux ingénieurs, aux étudiants, etc. Deuxième niveau, c'est la formation. Alors, la formation, on peut la faire à distance, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais on peut la faire aussi dans ces lieux. Et cette formation, elle est pour les aidants, elle est pour les patients, hein, mais elle est aussi, hein, je vous disais qu'on est au cœur de, Sophia Antipolis, et elle est bien sûr pour les étudiants. Surtout les étudiants qui sont en ingénierie. Il y a eu une question sur l'intelligence artificielle. Pour éviter de se faire bouffer par l'intelligence artificielle, il faut que l'intelligence artificielle, elle comprenne ce qu'on est. Et pour comprendre ce qu'on est, ben, on a besoin que les chercheurs, les ingénieurs, ils puissent savoir ce qu'est un patient et une famille. Voilà. Et puis le dernier niveau. Alors donc tout ça se fait dans un premier étage, au rez-de-chaussée. Et alors au deuxième étage, c'est là qu'on va avoir environ 250 mètres qui sont dédiés plutôt à des activités de recherche, mais aussi de soins. Alors qu'est-ce que...
Oui, alors c'est vrai que dans l'idée de développer l'équipe mobile par la suite, c'est après l'équipe mobile, après avoir fait des préconisations, c'était de pouvoir proposer aussi une prise en charge à l'aidant. La psychologue, par exemple, va se former aux thérapies cognitivo-comportementales. Ça peut être aussi des ateliers de yoga. On avait questionné les aidants sur ce qu'ils attendaient un petit peu comme activité. Et c'est vrai que tout ce qui est sophrologie, yoga, activité physique, tout ça, c'est assez recherché. Et puis aussi échanger entre eux. Mais pas forcément avec une psychologue ou un professionnel. Échanger entre eux pour discuter avec des gens qui...
Mais
finalement... que ça soit un groupe de parole, voilà. C'est vraiment partager le vécu de chacun. Ça leur apporte beaucoup. Ils ont beaucoup de choses à partager. Vraiment.
Donc, ajouter une brique à toutes les associations, et je citais France Alzheimer qui existe déjà, mais sur ces spécificités de recherche. Alors, comment ça va se passer? Le bâtiment il sera construit pour 2025.
Voilà, on a commencé il y a deux semaines.
Et on va commencer, je pense, une action virtuelle à partir du... premier trimestre 2024, grâce à une intervention que va développer Valeria Manera, qui est en particulier liée sur des choses qui concernent les aidants, comment lutter contre le stress, comment faire face au blues, la résilience, même si Nancy en a assez qu'on parle de la résilience, la gestion du quotidien, faire face à la frustration et lutter contre la solitude. Alors, pour le moment, le site n'existe pas encore. Il existera à partir du 1er janvier 2024. Mais vous pouvez suivre quelques informations sur ce centre sur notre site internet coptech.fr. Voilà, il est 16h.
Merci, c'est parfait. On va prendre quelques questions. Merci infiniment. On vous applaudit. Et on fait venir le micro, bien sûr, tout de suite à madame qui a levé. Juste une question rapide avant qu'on lui donne. Est-ce que la France... se distingue par une implication des aidants encore plus élevée qu'ailleurs ou pas? Est-ce que culturellement, nous Français, on est plus incités à aider dans ce...
Je suis pas certain.
Pas certain. Enfin, en tout cas, est-ce que c'est un phénomène mondial, je dirais?
Par exemple, des États-Unis et de Stanford, il y a quand même des organisations qui sont très bien structurées. Et puis, il y a une association européenne, Alzheimer Europe, où il y a quand même...
L'aidant familial, je parle.
Est-ce on parle beaucoup
cette proximité des familles.
Aux Pays-Bas aussi.
Aux Pays-Bas, ils misent beaucoup sur l'institution. Ils ont vraiment misé sur ça. C'est vrai que, par exemple, vous prenez l'Espagne, eux, clairement, ils ont misé sur les aidants. C'est-à-dire, les financements sont mis sur le... Après, c'est culturel aussi.
Les financements sont mis, vous voulez dire...
C'est-à-dire, l'argent est donné à la famille, mais pas dans les institutions, très peu. La France, c'est un peu mixte. On a les deux. Mais aujourd'hui, si le maintien à domicile il fonctionne, et si on veut qu'il fonctionne, il va falloir s'intéresser aux aidants parce qu'il fonctionne aujourd'hui parce qu'il y a des aidants. Quelqu'un qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'aidants, ça ne marche pas.
Non, et malheureusement, demain et après-demain, on fait déjà moins d'enfants, donc ils seront de moins en moins nombreux.
Vous parliez tout à l'heure des générations, du futur, mais en fait, il faut voir aussi l'image qu'on va donner aux générations futures, de ce que c'est d'accompagner son proche, sa grand-mère ou son père. Si on leur donne l'image qu'on a aujourd'hui...
C'est assez triste.
Oui, voilà. Mais alors qu'en fait, c'est un parcours de vie, ça va arriver chez beaucoup de monde. Voilà, il y a aussi ce challenge-là.
Important. Madame, société. Merci d'avoir patienté.
Pas de problème. Moi, j'aimerais savoir très pratiquement l'accueil de jour... Ça recouvre quels établissements, quelles entités, est-ce qu'il y a un point d'entrée, des points d'entrée multiples? Quels sont les critères de sélection
de celui-ci en particulier, ou de façon générale?
Vraiment des choses oui. pratico-pratiques.
Oui, alors les accueils de jour, il y en a... Il y en a, alors nous, on est un accueil de jour autonome, hein, c'est-à-dire qu'on ne fait que de l'accueil. Vous en trouvez aussi dans des EHPAD où ils ont... La Fondation Jean-Louis Noisier,
mais c'est vrai ailleurs.
Oui, alors vous avez celui de France Alzheimer à l'Institut Claude Pompidou. Il y en a un également à Grasse, les Répits Grassois. Il y en a un à Antibes. Voilà, il y en a quelques-uns. Je crois qu'on est 5 autonomes.
C'est ça, hein.
Alors, vous pouvez aller sur le site du département. Hein.
Il y a celui de Nice aussi. Hein, qui est...
Oui, celui de Nice aussi. Avenue
des Fleurs, je crois.
Je crois qu'il a fermé.
Il a fermé? Ah bon.
Est-ce que quelqu'un a l'information plus précise?
Non. Alors, à un moment, Aurélie, on avait une liste sur... Oui.
Il faut voir. Mais vous allez sur département 06, vraiment, vous avez tout.
D'accord, vous avez cette liste exhaustive.
Oui, oui. Et pour, en fait, voilà, après, pour y rentrer, il suffit de contacter les accueils de jour. Le critère principal, c'est d'avoir des troubles neurocognitifs. Hein. Ce n'est pas pour des personnes âgées lambda. Et ensuite, il faut aussi pouvoir accepter la collectivité. Voilà. Des personnes qui sont un peu solitaires, tout ça, bon, ça peut être un peu compliqué.
Et pas des formes trop avancées non plus?
Alors, pas force, ça dépend. Franchement, voilà, il faut voir après avec la structure. Ça dépend les structures. Nous, je sais que, par exemple, on nous oriente des patients jeunes parce qu'on est un gros établissement. Donc, on arrive à proposer des activités un peu... Ben justement, les jeux sérieux, clairement, ça leur convient bien. Dans les EHPAD, parfois, les accueils de jour, ils ont entre 5 à 8 places. Donc, ça va convenir à quelqu'un qui a besoin d'un environnement un peu plus contenant. Voilà. Mais ça dépend aussi de l'endroit où vous habitez. Un accueil de jour, c'est vraiment un dispositif de proximité. Il ne faut pas faire 40 km. Voilà, il n'y a pas d'intérêt à ça.
Oui, parce que c'est... Non, attendez, excusez-moi, je vous le passe parce que c'est des questions d'intérêt général.
Donc, les prestations, les conditions d'accueil, etc., ne sont pas formatées. Elles sont différentes en fonction des accueils de jour. Et donc, il faut que... Il y a le critère de la proximité, mais il y a peut-être d'autres critères.
Alors, en fait, ça dépend de la configuration de l'accueil de jour. Voilà. Mais sinon, on a à peu près quand même les mêmes critères. Je sais qu'on doit accueillir on ne peut pas accueillir des personnes en GIR 1, par exemple. Mais quelqu'un qui est en GIR 1, il est alité la plupart du temps, donc ça ne correspond pas. Pareil, sur la maladie, on fait toujours des essais. Voilà, je ne peux pas me limiter juste avec un compte-rendu neuropsy sur l'admission ou pas. Ouais, ouais.
Et accueil de jour, ça veut dire 7-7, ou est-ce qu'on peut moduler c'est-à-dire un jour par semaine?
Alors, on commence toujours par une fois par semaine. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Et d'ailleurs, quelque chose qu'on a revu par rapport à notre réflexion, c'est qu'il y a 10 ans, on accueillait des personnes des fois tous les jours de la semaine. C'est quelque chose sur laquelle on est revenu, où on va jusqu'à 3 fois par semaine pour que les aidants mettent en place d'autres choses à domicile et qu'ils ne misent pas tout sur l'accueil de jour. Parce que l'accueil de jour, c'est quelque chose de transitoire. Il y a un début, il y a une fin. Hein, et justement, parce qu'il y a des critères après de fin, c'est-à-dire à un moment donné, quand c'est plus bénéfique à la personne, c'est-à-dire où elle a besoin plutôt de calme. Vous savez, quand vous prenez le petit bus le matin, vous venez passer la journée en accueil de jour, que vous repartez avec... ça reste quand même des personnes âgées pour la plupart, donc... Quand c'est plus bénéfique et qu'on ne peut plus proposer de prise en charge, l'accueil de jour s'arrête.
Mais c'est définitif? Ou alors, à ce moment-là, la modulation, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, pendant 4 mois, une fois par semaine, on arrête parce que la personne en a marre.
Vous êtes libre d'arriver, de repeindre. Oui, ça...
D'accord. Donc, finalement, c'est un dosage... qui est fait en concertation avec l'établissement et l'aidant.
Alors, on fait le projet d'accompagnement entre 6 à 8 mois après l'accueil, enfin après l'admission. Durant ce premier projet d'accompagnement, on peut à ce moment-là émettre l'idée, enfin la proposition d'un deuxième jour, par exemple, en disant ça se passe bien, on pourrait proposer davantage. Voilà. Mais ça, c'est toujours en concertation avec l'aidant parce que finalement, l'aidant, lui, peut-être, il a mis en place d'autres choses à la maison, il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Nous, on propose, l'aidant peut proposer aussi, et puis on essaye de voir ce qu'on peut faire.
Et au niveau des... est-ce qu'il y a des coûts? Est-ce qu'ils sont les mêmes dans tous les établissements?
Oui, alors les coûts, ils sont à peu près similaires, oui. Et ensuite, il y a un financement de l'APA, l'allocation personnalisée pour l'autonomie, l'APA du domicile, justement. Donc il faut faire un dossier auprès du département. Après, vous pouvez aussi le financer.
Il y a un ordre de grandeur ?
Alors nous, par exemple, le maximum, c'est 54,50 € la journée, tout compris avec le transport et sans financement de l'APA.
D'accord. Voilà.
Donc, sachant que ceux qui n'ont pas l'APA, ils peuvent déduire aussi une partie des impôts. Enfin, il y a beaucoup de choses.
Merci pour cette série de questions parce qu'elle est importante et elle reflète effectivement la situation de beaucoup d'aidants. Oui, monsieur.
Oui, vous avez dit effectivement qu'on va avoir des aidants qui sont de plus en plus jeunes, enfin actifs en tout cas.
Oui, actifs.
Quid de... Et dans les questions que vous avez émises par les aidants, je n'ai pas vu apparaître deux points. C'est le statut d'un aidant. Ou est-ce qu'on a projet de faire d'établir un statut pour l'aidant et la rémunération?
Oui.
Le statut d'aidant familial, vous voulez dire, hein, parce qu'effectivement, il y a les aidants...
C'est vrai que le statut d'aidant a été vraiment défini par les politiques publiques, et c'est vrai que ça ouvre des droits. Donc les droits, c'est par exemple un congé, les congés aidants, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, voilà. Il y a aussi des séjours de répit qui sont financés, hein, vous savez, c'est 500 € par an, je crois, pour que l'aidant puisse souffler. Voilà, c'est vrai que le fait d'avoir reconnu le statut d'aidant, ça lui a ouvert des droits, mais on est vraiment quand même qu'au début. Après, ça pose la question aussi, l'aidant, c'est quand même quelqu'un de la famille aussi, donc... Il faudra quand même travailler aussi.
Oui, bien sûr. Puis il soulage, parlons crûment, il soulage le système de santé d'une charge très
importante. Mais voilà, il faut voir aussi à quel prix, parce que dans les chiffres,
il n'y avait
pas les chiffres, mais
il
y a un aidant sur trois qui décède avant la personne malade. Hein.
Et, donc, et tout ce qui est le fardeau psychologique là, qu'on évoquait est très important chez les aidants. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi les accompagner.
Perte d'emploi aussi, ou parfois perte d'emploi, ou en tout cas temps partiel. Merci beaucoup, et de toute façon, ça fait un magnifique enchaînement. Merci pour cette intervention.